en séance. Une retransmission proposée par Canal Academy.
La séance du 5 avril 2013 à l'Académie des inscriptions et belles-lettres a été consacrée à deux sujets, les papyrus d'Herculanum et Léonard de Vinci. Canal Academy vous propose d'écouter la retransmission de la communication de Louis Godard, associé étranger de l'Académie. Il a choisi d'intituler son intervention « Sur les traces de Léonard de Vinci et de la bataille d'Anghiari ».
Monsieur le Président, Monsieur le Secrétaire perpétuel, Mesdames et Messieurs les académiciens, chers collègues, Mesdames et Messieurs, j'ai le très agréable devoir de vous transmettre les salutations les plus chaleureuses du Président de la République italienne. Monsieur Napolitano, sensible à l'accueil que tous les membres de l'Institut lui ont réservé lors de la visite qu'il fit sous la coupole il y a 3 ans, est profondément reconnaissant à l'Académie pour le rôle essentiel qui est le sien pour la promotion de la culture et de la science en France, en Europe et dans le monde. L'Italie possède un corps spécialisé appartenant à l'arme des carabiniers, dénommé Comando Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale. Créé le 9 mai 1969, ce corps a pour mission de récupérer les œuvres d'art volées ou exportées illégalement et de contrôler les sites archéologiques, terrestres et maritimes susceptibles d'attirer des fouilleurs clandestins. Le corps possède aujourd'hui une banque de données recensant près de 5 millions d'objets disparus au terme d'opérations frauduleuses. Entre 1970 et 2012, il a pu récupérer des centaines de milliers d'œuvres d'art et plus de 900 000 objets archéologiques qui avaient été soustraits illégalement au patrimoine italien et mondial. L'œuvre de ces carabiniers ne s'adresse pas seulement au patrimoine italien, mais également au patrimoine mondial. Certains de ces trésors étaient exposés dans de grands musées étrangers. En 2008, j'ai organisé au Palais du Quirinal une exposition que j'ai appelée « Nostoi » pour célébrer le retour en Italie de plus de 70 chefs-d'œuvre de l'art grec, étrusque et romain que 4 grands musées américains, le Paul Getty Museum de Los Angeles, le Metropolitan Museum of Art de New York, le Museum of Fine Arts de Boston et le Princeton University Art Museum s'étaient procurés de manière illicite en soudoyant des fouilleurs clandestins ou en acquérant auprès de marchands véreux des objets comme le vase d'Euphronios avec la mort de Sarpedon, le vase d'Astéas avec le rapt d'Europe, le Trapezophoros de Ascoli Satriano ou la splendide statue de Vibia Sabina, l'épouse d'Adrien. Depuis plus de 12 ans, j'ai l'honneur de collaborer avec les hommes de ce corps spécialisé qui, avec courage et souvent au péril de leur vie, se battent en Italie et ailleurs dans le monde, en particulier en Irak et en Afghanistan, pour défendre le patrimoine de l'humanité. En mai dernier, le colonel Raffaele Mancino me téléphona m'invitant à me rendre à leur centre opérationnel. C'était pour me montrer la photographie d'un tableau que ces hommes et lui-même recherchaient depuis bien des décennies, la fameuse Tavola Doria, attribuée à Léonard de Vinci et disparue depuis 1940. Ils étaient parvenus à localiser l'endroit où se trouvait le tableau exporté illégalement, le port franc de Genève, et des transactions en cours avec les responsables du Tokyo Fuji Art Museum qui avaient acquis ce chef-d'œuvre permettaient d'espérer que la Tavola Doria rentrerait avant longtemps en Italie. Ce fut le cas, elle rentra sous bonne escorte, le 14 juin 2012. la grande famille génoise des Doria, qui possédait de très riches collections d'art, a joué un rôle important dans l'Italie du Quattrocento et du Cinquecento. La Tavola Doria est mentionnée pour la première fois dans un inventaire des biens de famille datant de 1621. Le tableau est décrit, c'est à la première ligne de l'inventaire, le tableau est décrit comme une bataille de soldats à cheval de Léonard de Vinci et inventorié sous le numéro 442. L'auteur de l'inventaire, comme vous pouvez voir, évalue à 300 écus une somme considérable qui ne peut guère s'appliquer qu'à un tableau retenu, un original de Léonard, l'œuvre en question. À titre d'exemple, dans le même inventaire, une Madone de Corrège vaut 40 écus, une Pietà du Tintoret, 6 écus, un paysage de Bruegel, 50 écus. Dans un autre inventaire postérieur à 1625 et antérieur à 1641, je crois que c'est un inventaire de 1641, le même tableau figurant sous le numéro 218 est décrit comme une bataille de chevaux de Léonard de Vinci, évaluée 1200 lire génoise, autre somme exceptionnellement élevée. Les Doria étaient en contact avec les Médicis, comme l'atteste l'abondante correspondance échangée entre Ferdinando Ier et Cosimo II. Les lettres parlent d'échanges de dons entre les deux familles et il est possible que la Tavola Doria ait été cédée par les Médicis aux Doria dans le courant du Cinquecento. Selon la volonté de Giovanni Carlo Doria, à sa mort, le tableau devint propriété de Marcantonio Doria, un prince qui, durant toute sa vie, s'attacha à renforcer la position de la famille génoise des Doria dans le sud de l'Italie. Aux alentours de 1598, Marcantonio épousa Isabella della Tolfa, fille de Carlo Conte de San Valentino et veuve de Antonio Grimaldi, prince de Salerne, duc d'Eboli et marquis de Diano. Cette union offrit à Marcantonio l'occasion tant attendue pour s'assurer de nouveaux territoires dans le sud italien. En 1636, il devint prince d'Angri de par la volonté du roi d'Espagne Philippe IV. Ainsi, le rameau napolitain des Doria sera désormais nommé Doria d'Angri. On ignore pratiquement tout du tableau jusqu'en 1939, quand il fut présenté à Milan à l'occasion de la grande exposition Léonard de Vinci et les inventions italiennes. Bruno Molaioli, surintendant de Naples, un surintendant absolument génial, entre parenthèses, persuadé qu'il s'agissait d'une œuvre de Léonard de Vinci, comme du reste tous les inventaires le laissaient entendre, inséra en date du 8 novembre 1939 ce tableau dans la liste des biens intangibles du patrimoine italien. Le tableau, théoriquement, devait rester en Italie. En 1940, les collections rassemblées par le prince Marcantonio Doria d'Angri furent mises en vente publique dans les locaux du Palais d'Angri, place du 7 septembre à Naples. Le catalogue rédigé à cette occasion donne une idée générale de la qualité exceptionnelle des biens mis en vente. La Tavola Doria est mentionnée en ces termes: un tableau peint à l'huile qui fut exposé à Milan à la grande exposition sur Léonard, représentant la lutte pour l'étendard de la bataille d'Anghiari d'après les cartons de Léonard de Vinci. À présent, les informations que je vais vous donner sont celles que les forces de l'ordre, la magistrature italienne et moi-même avons pu recueillir au terme d'une longue enquête. Dans le même catalogue, le marquis Giovanni Niccolò de Ferrari acheta la Tavola Doria. S'agissant d'une œuvre appartenant au patrimoine italien, le tableau devait, je le répète, rester dans la péninsule. Bien entendu, il n'en fut rien. Et en 1942 ou 1943, il fut cédé à un trafiquant suisse de Locarno nommé Antonio Fasciani, lequel le revendit en 1962 à une société allemande de Munich, la Interkunst Handel mit Internationale Kunstobjekten, de propriété d'un certain Georg Hoffmann. En 1968, le tableau fut restauré de manière bien malhabile par Kremer, le conservateur en chef de la Bayerische Staatsgemälde Sammlung de Munich. On enleva la plus grande partie de la pellicule de peinture qui entourait la scène principale de la lutte pour l'étendard et on ajouta une couleur dorée afin de mettre en évidence les personnages représentés. Entre-temps, Hoffmann s'était mis à la recherche d'acquéreurs. Il est probable que le prix exigé décourageait les plus tenaces de ses interlocuteurs. Après la mort de Hoffmann en 1970, on apprend que le tableau avait été hypothéqué près la banque Bansa de Munich. Entre 1974 et 1987, le tableau se trouve certainement à New York, près la galerie Wildenstein. Le 29 septembre 1989, l'avocat Wolfgang Kurbitz, en sa qualité de curateur de la faillite de la banque Bansa, vendit le tableau à Alexander Badal, administrateur délégué d'une société de Munich, qui, en 1992, le céda pour 25 millions de dollars au Tokyo Fuji Art Museum. Le 3 juin 1992, la Tavola Doria était au Japon. C'est à ce moment que les Japonais se rendirent compte qu'ils avaient été bernés. Le tableau faisait partie, depuis 1939, du patrimoine intangible de l'Italie et ne pouvait donc être exposé sans risque. Que faire, sinon tenter de le revendre en sourdine? Les Japonais croient bon de l'expédier au port franc de Genève, la Mecque des grands trafics internationaux de tout genre, y compris des objets d'art. En 2007, un certain Toshiro Akiyama prit l'avocat Bernard Kirschbaum de trouver un acquéreur pour la Tavola Doria. Le 5 juin 2009, un accord est près d'être conclu entre Kirschbaum et la société Belgravia Lane de Panama pour la vente du tableau à l'émir du sultanat de Brunei, qui se déclara prêt a payé rubis sur l'ongle la somme considérable de 50 millions de dollars. Il n'en sera rien car les trafiquants se sentent désormais braqués. Le 27 juillet 2011, le tableau est placé sous séquestre. L'Italie parvient à convaincre les Japonais qu'ils n'ont rien de mieux à faire qu'à lui restituer le chef-d'œuvre sans exiger quoi que ce soit. En échange, elle s'engage à le leur confier à partir de 2014, pour une période de 4 ans renouvelable 2 fois, et à conclure un accord qui prévoit le prêt temporaire pour de futures expositions au Tokyo Fuji Art Museum d'œuvres italiennes provenant de nos musées et de leurs réserves. C'est ainsi que j'ai pu exposer la Tavola Doria au Palais du Quirinal il y a quelques mois. Comment Léonard de Vinci fut-il amené à peindre la bataille d'Anghiari ? En 1494, Florence, en proie à la révolution promue par Savonarole, expulse les Médicis. Le bouillant moine, originaire de Ferrare, s'employa à réformer les institutions pour empêcher que désormais le pouvoir aboutisse dans les mains d'un individu ou d'une famille, comme au temps de Cosimo le Vieux, de Laurent le Magnifique ou de Piero dei Medici. Il décida donc de créer le Conseil des 500, ou Grand Conseil, rassemblant 500 citoyens de Florence. Il fallait aménager un endroit pour permettre à ce Conseil de se réunir. On décida de construire une grande salle au sein de Palazzo Vecchio et l'on confia le projet à un groupe d'architectes aux ordres de Antonio da San Gallo. La construction de cette salle fut complétée en 1498. La salle du Grand Conseil construite, il fallait évidemment la décorer. En octobre 1503, Pierre Soderini, gonfalonier de Florence, décida de confier cette tâche à Léonard de Vinci et à Michel-Ange. Le grand magistrat florentin invita Léonard à représenter sur l'une des parois de la salle la bataille d'Anghiari du 29 juin 1440 qui avait consacré la victoire des troupes florentines et de leurs alliés pontificaux sur les troupes milanaises du duc Filippo Maria Visconti, commandé sur le terrain par Niccolò Piccinino. Sur une autre paroi, il pria Michel-Ange de peindre la bataille de Cascina, qui vit le 28 juin 1364 les Florentins de Galeotto Malatesta écraser les troupes de Pise. Léonard accueillit la proposition de Soderini avec enthousiasme. Il fit une description de la bataille dont la trace est conservée dans le Code Atlantique. Carlo Pedretti a identifié un passage de Leonardo Dati, dédié à cet événement et traduit par Agostino Vespucci, auditeur de la chancellerie florentine. Il s'agit de la source à laquelle Léonard s'est inspiré pour souligner toute l'atrocité de la guerre. Ce thème, je reprends l'expression de Léonard, « terribilità della guerra », avait déjà été affronté dans un manuscrit de 1490 destiné à un livre sur la peinture. Léonard y traite d'hommes désarmés qui se défendent en mordant et en griffant, de soldats piétinés par des chevaux au galop qui tentent de se défendre en se protégeant de leurs boucliers. Et il décrit par le menu la manière dont il convient de présenter les vaincus. Pâles, les sourcils écarquillés, le visage ravagé par les rides, la bouche ouverte, laissant apercevoir des dents pourries. Tous ces éléments, tous, sont repris dans la Tavola Doria et la description des vaincus s'applique de manière saisissante au visage de Niccolò Piccinino. Léonard commence également à concevoir des dessins préparatoires à la grande œuvre qu'il a entreprise. Certains de ces dessins nous sont parvenus. En voici deux. Au musée de Budapest est conservée une esquisse des visages de Niccolò Piccinino, capitaine des troupes milanaises, et de Ludovico Scarampo Mezzarota, commandant des troupes pontificales venues au secours de Florence. Voyez Piccinino. Et voici à gauche Ludovico Scarampo Mezzarota. À Venise, aux galeries de l'Académie, se trouve une étude préparatoire au groupe de fantassins s'affrontant à main nue. Léonard a réalisé trois esquisses, comme vous le voyez. C'est la dernière, il a gribouillé sur les deux premières esquisses, c'est la dernière qui le satisfaisait, évidemment. Il s'agit, bien entendu, du couple de fantassins luttant à main nue que l'on voit sur la Tavola Doria. Mais il a réalisé aussi d'autres esquisses, en particulier d'autres esquisses conservées à Venise, à Windsor, et on a même ici, dans les collections de l'Institut de France, une étude du cavalier de droite figurant sur la Tavola Doria. Bref, le maître est plein d'enthousiasme, même si, comme à l'accoutumée, il se consacre à de multiples entreprises et non des moindres. Ainsi, en novembre 1504, on le retrouve au service du seigneur de Piombino, Jacopo Appiani IV, pour diriger les travaux d'aménagement du port et des remparts de la ville. Néanmoins, il travaille au carton préparatoire, dans la salle du pape de Santa Maria Novella. Vasari nous informe que pour réaliser le gigantesque carton, il invente, je cite, « une machine extrêmement ingénieuse qui s'élève lorsqu'on la resserre et s'abaisse lorsqu'on l'élargit ». Deux écrits, datés 28 février 1504, documentent les dépenses réalisées pour ouvrir une porte permettant à Léonard de passer de la chambre où il loge à la salle où il travaille au carton. Le maître ne se contente pas de travailler au carton. Il réalise également, sur une table en peuplier, un tableau préparatoire de la bataille d'Anghiari. À cet effet, il expérimente un mélange de pâte à colorier inspiré selon un auteur du Cinquecento, cité comme l'Anonimo Magliabecchiano, à une recette de Pline l'Ancien. Pour la sécher et la fixer sur le support, on doit approcher cette nouvelle sorte de pigment, fort épais du reste, d'une source de chaleur intense. C'est à cet effet que Léonard alluma un brasero rempli de charbon ardent. Le 5 juin 1505, le carton et le tableau préparatoire sur lequel il a expérimenté avec succès cette nouvelle technique picturale terminée, Léonard se rend dans le salon des 500. Le grand moment est venu de peindre la fresque de la bataille d'Anghiari sur l'une des parois de la salle. Le maître nous raconte ce qui se passe à ce jour-là dans un manuscrit découvert à Madrid en 1967 et remarquablement publié et commenté par Carlo Pedretti. Je cite Léonard de Vinci. Le 6 juin 1505, un vendredi, sur le coup de 13 heures, je commençais à peindre dans le palais. Au moment de poser mon pinceau sur la paroi, le vent se leva. Les cloches sonnèrent à mort. Un orage effrayant se déchaîna jusqu'au soir. Le carton se déchira et un vase rempli d'eau se brisa. Léonard ne va pas plus loin dans la description de ce qui se passa ce vendredi 6 juin 1505, mais son récit nous laisse entendre que l'opération n'était pas née, décidément, sous les meilleurs des auspices. En fait, Vasari d'une part, l'anonimo que j'ai déjà cité de l'autre, nous explique que ce qui se passa au moment où Léonard commença à peindre. Écoutons Vasari. Et ayant décidé de peindre avec une couleur à l'huile, il fit une pâte tellement épaisse pour la superficie du mur de la salle que tout commença à couler et qu'il abandonna aussitôt son entreprise. L'anonymo est plus explicite et il nous explique les raisons pour lesquelles l'opération échoua. Je cite l'anonymo. C'est en s'inspirant à Pline qu'il inventa le stuc avec lequel il peignait. Mais il se trompa. La première fois, il expérimenta cette technique sur un tableau dans la salle du pape où il travaillait. Face au tableau qu'il avait placé contre le mur, il alluma un grand brasero rempli de charbon ardent et la forte chaleur sécha la peinture. Ensuite, il voulut mettre cela en pratique dans le salon des 500, mais là-bas, vu la distance qui séparait le brasero placé au pied du mur de la fresque, la chaleur ne parvint pas à sécher la peinture et tout se mit à couler. Le texte de Vasari, expliquant que Léonard abandonna le chantier lorsqu'il se rendit compte que la technique picturale qu'il avait mise au point ne pouvait s'appliquer au mur du Salon des 500, est confirmé par une lettre de Soderini du 9 octobre 1506 à Charles d'Amboise, commentant avec douloureuse résignation l'abandon du chantier de la part de Léonard, Soderini écrit, je cite, ha dato piccolo principio a una grande opera. Il n'a donné qu'un maigre début à une grande œuvre. Tout porte donc à croire que le seul témoignage laissé par Léonard de la fameuse bataille d'Anghiari soit la Tavola Doria et que, contrairement à ce qu'avancent d'aucuns, il n'y a aucune trace de la peinture de Léonard sous la fresque de Vasari célébrant la bataille de Scanagallo qui orne aujourd'hui le Salon des 500. Une preuve que le mur était toujours à décorer en 1508 nous est donnée par la requête avancée par Raphaël à son oncle Simone di Battista di Charla. Nous sommes à Florence. Avant de partir pour Rome, Raphaël espérait pouvoir reprendre l'œuvre abandonnée par Léonard. Et il pria son oncle de le recommander à l'attention du tout-puissant Pierre Soderini pour que lui soit confiée la réalisation de la bataille d'Anghiari. Je cite Raphaël, la lettre à son oncle. « Me faria grande utile per l'interesse de una certa stanza da lavorare la quale tocca sua signoria de allocare. C'est indubitablement dans l'espoir de convaincre Soderini que Raphaël réalisa cette esquisse que vous avez sous les yeux, conservée à l'Ashmolean Museum d'Oxford, cette esquisse de la bataille d'Anghiari, inspirée évidemment à la Tavola Doria. La Tavola Doria est-elle de la main de Léonard de Vinci? Beaucoup d'auteurs, et non des moindres, comme Carlo Pedretti, en sont persuadés. Quelques-uns, en revanche, considèrent qu'il s'agit d'une copie, œuvre d'un artiste du Cinquecento. Grâce à l'intervention de nos carabiniers, le tableau est aujourd'hui à la disposition des chercheurs et le problème de son attribution peut être affronté en usant des moyens que les techniques les plus sophistiquées sont en mesure de fournir. Je crois qu'un faisceau d'indications plaide en faveur de l'attribution du tableau à Léonard de Vinci. Je les résume. 1. Dans l'inventaire de 1621 que j'ai cité, la Tavola Doria est décrite comme une bataille de soldats à cheval de Léonard de Vinci et évaluée 300 écus, somme absolument exorbitante, compatible uniquement avec une œuvre originale. 2. La Tavola Doria reproduit finalement des dessins préparatoires de la bataille d'Anghiari réalisés par Léonard. En outre, la physionomie des personnages représentés est exactement celle décrite par Léonard dans son manuscrit sur la peinture de 1490. 3. Comme le souligne Carlo Pedretti, la représentation des personnages, en particulier du visage de Niccolò Piccinino, déformé par la haine et la colère, dénote une connaissance des muscles faciaux que Léonard est le seul à posséder. 4. J'ai pu faire effectuer une première série d'analyse du tableau. Toutes vont dans le sens d'une attribution à Léonard de Vinci. Je les résume brièvement. Pour éviter que les déformations du bois altèrent et crevassent la peinture, l'auteur de la Tavola Doria a éliminé, vous voyez, les nodosités du bois et recouvert, c'est ça la chose extraordinaire, recouvert la table de fibres végétales, procédé cher à Léonard, que nous retrouvons aussi bien dans l'adoration des mages que dans la Madone des Rochers. Vous voyez là ces fibres végétales qui apparaissent clairement dans la radiographie. En outre, les radiographies montrent qu'avant de peindre, l'auteur a réalisé un dessin préparatoire, ce qui permet d'exclure que nous ayons affaire à une copie. Bien plus, l'auteur a effectué un certain nombre de corrections, ce qui ne s'explique que si nous avons affaire à un tableau de première main. Le trait en zigzag dessiné sur le cheval blanc est présent dans bien d'autres dessins de Léonard, qu'il me suffise de citer les études sur le cheval, le lion et l'homme, ou la remarquable étude sur les proportions d'un cheval. En fait de matériaux utilisés, aussi bien pour la réalisation du carton que du tableau préparatoire, Léonard s'est fait livrer une quantité considérable de matériaux. Parmi ces matériaux, il y a la poix grecque, ou colophane, une résine tirée de la térébenthine que Léonard utilisait en abondance. Or, les analyses d'un minuscule fragment de peinture réalisé il y a quelques jours à l'Opificio delle Pietre Dure de Florence révèle que la fameuse pece greca, la résine tirée de la térébenthine, la poix grecque, est attestée sur la Tavola Doria. Enfin, et regardez ces images, mes amis les carabiniers ont relevé des empreintes digitales sur la Tavola Doria. Il y en a une ici qui est absolument évidente. On voit une autre sur le dos du cheval. On les confronte en ce moment avec les empreintes digitales figurant sur d'autres tableaux de Léonard, comme l'Adoration des Mages ou la Madone des Rochers. Au terme d'un premier examen, il semble bien que toutes ces empreintes digitales remontent à un même personnage. Bien entendu, il n'est pas dit que ce soit Léonard. Ça pourrait très bien être un assistant de Léonard, bien entendu. Mais cela nous ramène à l'atelier de Léonard, et c'est extrêmement important. La Tavola Doria est sans doute le tableau préparatoire à la bataille d'Anghiari, réalisé par Léonard dans la salle du pape de Santa Maria Novella. S'inspirant au tableau de Léonard, plusieurs artistes du Cinquecento et du Seicento ont proposé leur version de la bataille. Lorenzo Zacchia le Jeune a réalisé cette incision, que vous voyez qui est datée 1558, et regardez le texte, « Ex tabella propria Leonardo Vinci manu picta, opus sumptum a Laurenzio Zacchia Lucensi ». C'est évidemment, à mon avis, à la Tavola Doria que s'est inspiré Leonardo Zacchia pour réaliser cette œuvre qui se trouve maintenant à Vienne. Mais nous avons aussi au Louvre ce très beau dessin d'un artiste du XVIe siècle, corrigé par Pierre-Paul Rubens. L'œuvre est au Louvre maintenant, et c'est une œuvre absolument remarquable qui, bien entendu, est inspirée à la Tavola Doria. En invitant Léonard et Michel-Ange à peindre deux scènes de bataille qui avaient marqué le dessin de Florence, Pierre Soderini voulait transmettre un message politique à ses concitoyens et au monde. L'élite de tendance républicaine qui avait pris le pouvoir à Florence après le départ forcé des Médicis entendait célébrer la valeur des soldats qui avaient fait la grandeur de la capitale de la Renaissance et rendre un vibrant hommage à ceux qui, obéissant aux ordres de Machiavel, avaient accepté de former, je traduis du texte de Machiavel, une milice civique, una milizia civica. La représentation soignée des personnages démontre à la fois l'habileté de l'auteur et son souci de répercuter le message politique de ceux qui l'ont invité à réaliser ce tableau. La bataille pour l'étendard ou bataille d'Anghiari représente l'affrontement entre quatre cavaliers, deux fantassins et un troisième personnage à terre qui s'extirpe non sans mal des jambes d'un cheval lancé au galop. Les quatre cavaliers sont de gauche à droite, Francesco Piccinino et son père Niccolò, commandant des troupes milanaises, Ludovico Scarampo Mezzarota et Pietro Giampaolo Orsini, commandant des troupes papales et florentines. L'affrontement se résume à la lutte pour la possession d'un étendard. Francesco Piccinino est, vous le voyez, dans une position extrêmement inconfortable. En équilibre instable sur son destrier, le bras gauche plié de manière peu naturelle, il ne pourra plus résister bien longtemps et devra lâcher la hampe de l'étendard. Niccolò Piccinino, le visage déformé par la rage, brandit son épée en espérant trancher les bras de ses adversaires. Scarampo et Orsini, protégés par leurs casques et leurs armures, lancent contre les Milanais un assaut irrésistible. Le corps à corps entre les deux fantassins est en son épilogue. L'homme terrassé est prêt de succomber et son adversaire s'apprête à lui donner le coup de grâce. Le jeune guerrier à gauche, dont le visage est pratiquement identique à celui d'un des anges représenté par Léonard dans l'Adoration des mages, protégé par son bouclier, sortira indemne des jambes du cheval de Piccinino. Analysons ces individus un par un. Francesco Piccinino fuit. Il a laissé l'abri de son cheval, se retournant et saisissant des deux mains la hampe de l'étendard, il s'efforce de la rompre dans un suprême effort dont rend compte la torsion de son buste. Cette torsion est encore accentuée par les décorations en spirale en forme de poulpe de sa cuirasse. La tête de bouc qui orne son poitrail confère une détermination sauvage à ce guerrier. Francesco est représenté comme une sorte de combattant barbare dont le casque et la cuirasse sont décorés de cornes de bouc. Sa cuirasse évoque celle du prince des ténèbres et l'aspect macabre du personnage est encore accentué par le crâne humain qui est dessiné dans l'un des plis de son manteau. Cela dit, les traits du visage de Piccinino sont fins, les yeux intelligents, la bouche entrouverte pour pouvoir engouffrer tout l'air dont son corps engagé dans un effort extrême a besoin. Le commandant en second de l'armée milanaise a une réelle beauté luciférienne. Il bat en retraite de manière peu glorieuse. Après la bataille d'Anghiari, son père lui confiera la garde de la Romagne, assiégée par Guidantonio Manfredi. En 1442, il commande la garnison de Bologne sur ordre du duc de Milan, mais suite à une révolte des citoyens de la ville, il est fait prisonnier et objet d'un échange d'otages en 1443. En 1444, après avoir remercié Niccolo, père de Francesco, désormais au seuil de la mort, Filippo Mario Visconti le nomme à la tête de ses troupes. Le choix est désastreux. Francesco est bientôt battu par Francesco Sforza le 19 août à Montolmo et fait prisonnier. Libéré en novembre 1444, Visconti lui confie à nouveau le commandement de son armée. Il sera battu par les troupes de Venise le 28 septembre 1446 à Mezzano et prendra la fuite, se couvrant de déshonneur et abandonnant à l'ennemi plus de 4000 chevaux. Léonard, qui a prié la chancellerie de Machiavel de dresser un dossier de tous ces individus, connaît parfaitement l'histoire de chacun. L'épisode de Mezzano avait terni à jamais l'image de Francesco Piccinino. Si Vinci le représente en fugitif, c'est pour insister sur ses piètres qualités de condottiere. Le portrait de Niccolò Piccinino que vous avez sous les yeux est admirable de bestialité. Le visage déformé par la haine, la tête couverte d'un bonnet rouge couleur de sang, la bouche grande ouverte comme un masque tragique, il hurle des imprécations, laissant deviner des dents pourries. D'une main, il brandit l'épée et de l'autre, il essaye de s'emparer de l'étendard. Lorenzo Spirito a écrit en 1489 un poème décrivant le dieu Mars tel qu'il était apparu en songe à Piccinino enfant. Je cite le poème. « Quel admirable spectacle, au détour d'un sentier que le dieu Mars, s'avançant peu à peu sur son cheval, avec ses armes de feu et son visage empreint de colère et de haine, au point de faire trembler tous ceux des alentours. » 14 ans plus tard, Léonard, qui connaissait Lorenzo Spirito et avait lu son poème, a voulu donner, à mon avis, à Piccinino, l'aspect féroce du dieu de la guerre. Pourquoi ? On connaît dans la Florence du Cinquecento les tristes caractéristiques de ces mercenaires qui ont semé mort et désolation en Italie. Ces gens, toujours prêts à trahir pour une poignée d'argent, étaient craints et méprisés. Niccolò Piccinino était l'exemple type du mercenaire félon et sans scrupules. En 1423, durant le siège de L'Aquila, Piccinino, allié de Braccio di Montone, avait pour mission de surveiller les portes de la ville pour empêcher toute sortie des assiégés. Il abandonna son poste et provoqua la défaite de Braccio, qui fut mortellement blessé dans l'affrontement. Ensuite, Niccolò, en compagnie de Oddo de Montone, fils de Braccio, rassembla les troupes en déroute et se mit au service de Florence, en guerre, alors déjà, contre Filippo Maria Visconti. Envoyé en Romagne à la tête de 5000 hommes pour arrêter les Milanais, il tomba dans une embuscade, fut fait prisonnier et emmené à Faenza, dans le géol de Guidantonio Manfredi. D'une habileté diabolique, il parvient à convaincre Manfredi à changer de camp. Au terme du contrat qui le liait à Florence, Piccinino tourna casaque et passa au solde de Visconti. Le dieu Mars, lui aussi, ne jouit guère d'une bonne réputation. C'était déjà le cas dans l'Antiquité et je me contente de rappeler l'Iliade d'Homère. L'iconographie du Cinquecento le représente toujours brutal, lâche, félon, opportuniste. Il suffit d'évoquer le beau tableau du Tintoret, vous l'avez sous les yeux, de 1555, qui le représente sous les traits de l'amant déplorable de Vénus, voyez dissimulé sous une table, pour n'être pas découvert par Vulcain, entré par surprise dans la chambre de son épouse. Le parallélisme entre Niccolò Piccinino et le dieu Mars me semble convaincant. La soldatesque qui accompagnait ces personnages était pire encore. Elle était composée d'un ramassis d'assassins, forts avec les faibles et faibles avec les forts. C'est pour éviter de s'adresser à de tels individus qui se définissaient fils de Mars, figli di Marte, que Machiavel proposa en 1503 de créer la fameuse Militia Civica, la milice civique, forte des vertus qu'Aristote célébrait déjà dans son éthique à Nicomaque et que professait Florence. Dans son tableau de la bataille d'Anghiari, Léonard a voulu opposer à ses mercenaires sans scrupules la milice florentine aux ordres de Ludovico Scarampo Mezzarotta et de Pietro Giampaolo Orsini. Ludovico Scarampo Mezzarotta, c'est le personnage à gauche, est un personnage de légende dans l'univers complexe et fascinant du Quattrocento italien. Fils d'un modeste médecin de Venise, Biagio Trevisan, Ludovico se fit appeler Mezzarotta puis Scarampo en hommage aux deux descendants de cette noble famille d'Asti qu'il a nommé ses héritiers. Au lendemain de ses études à Padoue, il devient médecin privé du cardinal Gabriele Gondulmer, qui deviendra pape et prendra le nom d'Eugène IV. Ludovico suivra le pape à Rome et deviendra son conseiller très écouté. Il entrera dans la carrière ecclésiastique, sera ordonné chanoine à Padoue en 1435 et la même année, sacré évêque de Traou, où bien entendu il ne mettra jamais les pieds. Le pape le nommera archevêque de Florence avec l'assentiment de Cosimo dei Medici, dont entre-temps Ludovico est devenu ami. En 1437, au terme d'une brillante mission diplomatique à Venise, au cours de laquelle il expliqua les motifs qui poussaient le pape à transférer le concile en cours de Venise à Ferrare, Ludovico fut nommé patriarche d'Aquileia et en 1440 cardinal camerlingue. Ayant succédé à Giovanni Maria Vitelleschi dans le rôle de préfet des armées pontificales, s'est investi de cette charge qu'il commanda les troupes papales à Anghiari le 29 juin 1440. Il sera confirmé cardinal camerlingue par les papes Niccolò II, Calliste III et Pie II. En 1457, on le retrouve commandant en chef de la flotte chrétienne qui écrasera les Turcs à Rhodes, à Mytilène, à Chypre et à Chios. Pietro Giampaolo Orsini, descendant du rameau des Orsini de Manopello, fut lui aussi un condottiere qui passa sans relâche d'un patron à un autre. En 1424, Florence acquiert ses services. En 1427, il est stipendié par Venise et affronte les troupes de Visconti. Il sera fait prisonnier par Niccolò Piccinino à Castel Bolognese le 28 août 1434. Et en racheté sa liberté, il reprend son poste à la tête des troupes florentines. Sa victoire à la bataille d'Anghiari lui vaudra d'être accueilli en triomphateur à Florence. Il ira déposer les étendards arrachés à l'ennemi à Santa Maria del Fiore. Le casque de Scarampo, vous le voyez à gauche, est surmonté d'un dragon. On peut percer le symbolisme évoqué par cet animal en contemplant les fresques réalisées par l'atelier de Domenico Ghirlandaio dans la salle des Lys au second étage de Palazzo Vecchio. Dans cette pièce qui jouxte la chancellerie de Machiavel, sont représentés deux groupes de héros de la Rome antique. À gauche, Brutus, Mucius Scaevola et Camille. À droite, Decius, Scipion et Cicéron. Décius s'est sacrifié pour la République. Brutus, la Sainte César, est le tyrannicide sauveur de la patrie. Cicéron, avec ses vertus civiles et son art oratoire, est l'emblème du citoyen probe et honnête. Camille, le héros du peuple. Mucius Scaevola, le fondateur du droit civil. Scipion l'Africain, voici une image qui nous montre au centre Scipion l'Africain. Scipion l'Africain, le général qui a su remporter la victoire sur le plus implacable des ennemis de Rome, Hannibal. Or, le casque de Scipion est orné d'un dragon qui représente évidemment tant les valeurs militaires que les vertus républicaines qui ont permis à Rome de triompher des Carthaginois. Depuis le Moyen-Âge, ajoute Frank Zollner, le dragon a aussi une autre caractéristique. L'animal est le symbole de la prudence. Le dragon représenté sur le casque de Scarampo est la parfaite antithèse de l'attitude des Milanais en proie à une agressivité dévastatrice. Florence et ses alliés pontificaux affrontent l'ennemi conscient de posséder la force et la sérénité que leur donnent les vertus républicaines. L'opposition entre la violence brutale et les forces tranquilles est comparable, selon Zollner, au couple antithétique de Mars et Minerve, tel que nous le représentent les fresques des palais communaux d'Ombrie et de Toscane, en particulier celles réalisées par Taddeo di Bartolo dans le palais du peuple de Sienne. Or, poursuit Zollner, la visière du casque de Orsini, je reviens à la visière d'Orsini, voilà, c'est le combattant à droite. La visière du casque de Orsini évoque le casque corinthien que souvent coiffe l'Athéna grecque. Voilà un autre élément qui renforce l'antithèse entre deux des cavaliers peints par Léonard sur la Tavola d'Oria. Alors que Francesco Piccinino est doté d'un casque orné de cornes de bouc qui souligne le caractère bestial du personnage, Orsini possède un casque qui rappelle la déesse de l'intelligence. L'analyse des trois soldats à terre est elle aussi révélatrice, à mon avis, de bien des aspects qu'a voulu souligner Léonard. Le guerrier tombé sous le cheval de Francesco Piccinino était armé d'une épée, même si on n'en aperçoit plus que le fourreau. Il se protège au moyen de son bouclier. Cette scène est anticipée de manière extraordinaire par Léonard dans son texte de 1490 que j'ai cité. Le jeune homme au trait délicat, la tête couverte de boucles blondes, ressemble fort à l'un des anges représentés dans l'adoration des mages, ou encore à la figure de Diomède que l'on voit dans un dessin de Léonard conservé à Windsor et datant précisément de l'époque où le maître travaillait à la bataille d'Anghiari. Bien que tombé, se trouvant dans une position inconfortable, la sérénité qu'exprime le visage de ce jeune guerrier contraste avec la fureur qui habite les deux commandants des troupes milanaises. Nul doute, à mon avis, qu'il s'agisse d'un Florentin. Léonard a beaucoup travaillé la scène des deux hommes s'affrontant en un corps à corps implacable. Je rappelle les esquisses conservées à Venise et représentant cet affrontement. Qui sont ces individus? Avant de commencer à peindre, Léonard avait exigé de la chancellerie de Machiavel qu'on lui communique un dossier précis relatant les détails de la bataille d'Anghiari. Il apprit ainsi que Piccinino, le 29 juin 1440, avant de se diriger vers Anghiari, où se trouvait l'armée des Florentins, passa par le visage de San Sepolcro, où il laissa ses bagages, et il enrôla un groupe considérable de villageois alléchés à la perspective de prendre part au partage du butin. Ces individus sont des civils, bien entendu, tout comme les palefreniers et les domestiques qui assistent l'armée florentine, et en tant que tels, ils sont désarmés. Il s'agit de la main-d'œuvre classique qui accompagne les troupes des mercenaires et se contente de ramasser les miettes des déprédations ourdies par les soldats. Lorsqu'ils se lancent dans la mêlée, c'est pour affronter à main nue d'autres misérables en des duels implacables. Léonard est parvenu à rendre admirablement le caractère impitoyable de cet affrontement. L'homme qui a le dessus immobilise son adversaire de la main gauche en lui empoignant les cheveux, tandis qu'il pointe l'index de la main droite pour lui crever les yeux. Les jambes des deux personnages gigotent, les bras de l'homme qui va mourir sont de couleur rouge, comme le béret de Niccolò Piccinino. Peut-être s'agit-il d'un homme de San Sepolcro incorporé aux troupes milanaises. Les yeux des chevaux contemplent horrifiés cette scène barbare. Léonard a voulu réaliser un tableau ayant fort impact politique et démontrer que la bataille d'Anghiari consacre le triomphe de la Florence républicaine, forte de ses institutions et de son droit, sur une armée de mercenaires brutaux et impitoyables, et je crois sincèrement qu'il a parfaitement réussi dans son entreprise. Mais, à mon avis, le maître est allé bien au-delà de ce que souhaitait Pierre Soderini. La Tavola Doria est bien plus qu'un hymne à la Florence républicaine des premières années du Cinquecento. C'est aussi, à mon sens, une dénonciation impitoyable de la guerre. J'ai déjà évoqué le visage atroce de Piccinino, l'aspect diabolique de son fils Francesco. Je n'ai pas encore parlé des chevaux. Je suis frappé par la noblesse des chevaux qui contraste avec la bestialité des deux mercenaires au service des Visconti. Comment ne pas voir, dans les yeux effarés du cheval blanc et du cheval brun, une condamnation sans appel de la mêlée dans laquelle les hommes les ont entraînés. Dans un article intitulé « Leonardo, la guerra e gli uomini bestia », Roberto Esposito rappelle que, contrairement à l'homme, l'animal ne sait pas mentir. Léonard de Vinci, dans un très beau texte, écrit que non seulement les hommes tuent les animaux pour se nourrir, mais bien souvent vivent aussi de la mort de leurs semblables. Surtout lorsqu'ils s'adonnent, et ici je cite la phrase admirable du maître, « a questa pazzia bestialissima che la guerra », à cette folie effroyablement bestiale qu'est la guerre. Dans leur course folle à l'anéantissement réciproque, les hommes ont commis une autre faute. Leur perfidie a voulu qu'ils soient impliqués des animaux innocents. Les yeux des chevaux de la Tavola Doria dénoncent de manière efficace le recours à la guerre. Dans une étude publiée en 1919, Luca Beltrami écrit que, je le cite, « Léonard a su démontrer, tant dans ses dessins que dans ses tableaux, ce que d'autres ne peuvent ni faire, ni même concevoir. Léonard, génie universel, voyage à travers les provinces et les États, franchit les frontières des royaumes, accumule d'infinies expériences au service des puissants de son temps qui tous, j'insiste, tous, en apprécient les qualités scientifiques et humaines. Je me dois ici d'évoquer François Ier. Au contact de tant d'hommes différents, Léonard est devenu véritablement citoyen du monde et a appris à haïr le seul véritable ennemi du genre humain, la guerre.
Vous venez d'entendre la communication de Louis Godard, membre associé étranger de l'Académie des inscriptions et belles-lettres, intitulée « Sur les traces de Léonard de Vinci et de la bataille d'Anghiari ».